En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors, je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je ne veux pas reparler.
Tu parles d'une connerie. Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. Nous sommes le 15 janvier 1919 à Boston. Le temps est plutôt doux pour la saison et pour une fois, les rues ne sont pas recouvertes de neige. Il est autour de midi dans le North End, le plus vieux quartier de la ville, et c'est l'heure du déjeuner pour tous ceux qui vivent ou qui travaillent dans le quartier. C'est toujours un peu risqué de chercher à deviner de quoi ces gens pouvaient bien discuter il y a un siècle, mais sur ce coup, il y a quand même un ou deux sujets qui sont sans doute dans l'air. Le retour prochain des boys de la Yankee Division, par exemple, des petits gars partis combattre en France, ou le 18e amendement. Tout le monde sait qu'il ne manque plus qu'un seul État pour qu'il entre en vigueur, et ils sont plusieurs à voter le lendemain, le 16 janvier. Et ça, ça doit en faire salement râler certains, parce que le 18e amendement, c'est celui de la prohibition. S'il est voté, il sera voté. Fini le gin, la bière ou le whisky. Fini la production d'alcool, en général. Enfin, pas tout à fait, il y a un alcool qu'on peut continuer de produire, c'est l'alcool dénaturé, celui qui ne sert pas à se peaufiner une gueule de bois, mais à produire du carburant, à désinfecter des plaies, à fabriquer des munitions. Et ça, on connaît bien dans le quartier, quelques années plus tôt, on y a construit un énorme réservoir de mélasse. Mais si, vous savez, la mélasse, cette espèce de liquide brun, poisseux et collant qui sert entre autres à produire de l'alcool. Mais quand je dis qu'il est énorme le réservoir, c'est sans exagérer, 15 mètres de haut, 27 mètres de diamètre et pas loin de 9 millions de litres en stock, 8,7 exactement. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de péter une bouteille d'un litre de mélasse chez vous, mais croyez-moi sur parole, c'est que du bonheur à nettoyer cette saleté. Et ben Boston va multiplier le problème par 8,7 millions. À 12h30, les habitants du quartier lèvent brusquement la tête en entendant un bruit qui ressemble salement à celui d'une mitrailleuse. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une mitrailleuse. La mauvaise, c'est que ce sont tous les rivets du réservoir qui ont subitement décidé de se faire la malle. Dans la minute qui suit, une énorme vague de mélasse inonde le quartier. Alors dit comme ça, ça paraît presque drôle. Ça l'est tout de suite moins quand on sait que la vague fait 5 mètres de haut et dépasse les 50 à l'heure quand elle commence à dévaler les rues. Le mur est tellement dense, gluant et puissant qu'il soulève un tramway, fait péter les poutres de la gare, fout par terre des dizaines d'habitations, ravage la caserne des pompiers et envoie un camion dans l'eau de la rivière Charles. Sur des centaines de mètres carrés, c'est Pompéi, mais en visqueux. Les habitants, les chevaux, les carrioles, les voitures, tout est recouvert d'une couche brune, sucrée, poisseuse, épaisse de près d'un mètre. Plus on se débat, plus on s'englue, exactement comme des insectes sur un attrape-mouche. L'odeur vous prend à la gorge, ceux qui tombent sont déjà foutus, incapables de se relever, tout est bien trop lourd, trop collant. La mélasse envahit tout, imbibe les vêtements, les cheveux, rentre dans les bouches et les narines. Elle tapisse la gorge des gens qui s'étouffent ou se noient lentement, sans même pouvoir appeler à l'aide.
Du slime ! C'est une rivière de slime ! Il y en a des milliers de litres ! Ça s'écoule comme une rivière !
De l'aide, justement, il commence à en arriver. Les premiers à porter secours aux victimes, ce sont les marins du Nantucket, un bateau amarré dans le port. La police, la Croix-Rouge, arrive ensuite, vite rejoint par des soldats expédiés en urgence par l'armée. Mais les conditions sont infernales, il faut progresser dans une couche poisseuse, noire, sans aucun moyen de savoir sur quoi on va poser le pied. Et le sucre tue. En tout, on ramasse 21 morts, plus de 150 blessés. Certains cadavres sont tellement imbibés de mélasse qu'il faut des jours pour les reconnaître. Deux d'entre eux ne seront jamais identifiés. Les opérations de secours durent 4 jours, mais il faudra des mois avant que l'eau du port retrouve sa couleur normale. Des dizaines de milliers d'heures de travail pour évacuer les carcasses de chariots et de voitures, nettoyer les bâtiments, les commerces, les magasins, débarrasser les pavés de la substance collante et puante qui les recouvre. Et enfin, permettre au quartier de retrouver un semblant de vie normale dans une ville qui va sentir la mélasse pendant des années. Évidemment, au moment de trouver un responsable, la boîte qui possédait le réservoir regarde ses pompes en faisant semblant de ne pas comprendre la question. Mieux que ça, la United States Alcohol Company, donc, prétend au moment du procès que si tout a pété, c'est la faute à un attentat des méchants anarchistes. Bah ça prend pas du tout. Les habitants sont les premiers à témoigner que le réservoir fuyait tellement de partout que tout le monde avait l'habitude d'aller en racler les bords, histoire de récupérer un peu de mélasse gratos pour la cuisine. L'entreprise a finalement dû verser 600 000 dollars de dommages et intérêts, autour de 8 ou 9 millions d'aujourd'hui. Bref, la mélasse, c'est sucré, mais ça peut se terminer par une facture salée. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.
Nova.